partout au Québec. Partout au Québec. Les sujets de l'heure. Éditorial. Entrevue. Vos commentaires. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mon Grain PM.
Bonjour tout le monde, en ce lundi 6 juillet 2020, une journée qui, moi en tout cas, quand je suis arrivé ici, j'étais très heureux, de bonne humeur. Puis là, quand j'ai commencé à regarder les nouvelles, puis à regarder les communiqués de presse, puis entendre des entrevues, ça m'a ramené dans la fin de semaine où on a été témoin de gestes qui, à mon point de vue, font partie de l'irresponsabilité et d'un manque de civisme dans notre société. Que l'on ne croit pas, que l'on soit des négationnistes de la situation, c'est de vos affaires. Cependant, c'est pas là qu'est la question, à savoir si j'y crois, j'y crois pas, il y a de la COVID, il y en a pas. Or, c'est pas... La situation n'est pas là. J'entends notre société, à tout bout de champ, dire ce qui est important dans un Québec comme le nôtre, c'est la solidarité. Quand il y a des épreuves, c'est la solidarité. Quand il se passe une inondation, c'est la solidarité qui compte. L'entraide, la cohésion, comprendre que nous sommes tous un. Eh bien là, c'est pas ça qui arrive. Il y a des éclatements qui se passent présentement dans notre collectivité et dans notre société qui nous divisent et qui nous séparent, que ce soit par catégorie d'âge, que ce soit par catégorie de travail. Et là, j'apprends, et vous le savez, qu'en fin de semaine, il y a eu des comportements presque, disons, inacceptables, en tout cas asociaux, de jeunes qui, sachant même qu'ils sont contaminés, et c'est la directrice de la santé publique de la Montérégie qui nous le dit, se sont présentés dans 2 ou 3 établissements, bars, danses, discothèques, appelez ça comme vous voudrez, ça ne me dérange pas, c'est pas là qu'est le problème, et qui sont arrivés et qui ont contaminé des gens. Et la réponse de bien des jeunes gens ou de personnalités, je ne veux pas mettre ça seulement sur le groupe d'âge, c'est que on dirait qu'avant leur baptistère, il n'y est rien arrivé. Vous avez des parents, vous avez des grands-parents. D'un côté, vous dites à Noël, mon Dieu, qu'on les aime, mais pour le restant de l'année, dans le déconfinement, vous risquez de les contaminer. Et vous n'irez pas les voir, vous ne serez jamais en contact avec d'autres gens qui sont, comme vous, porteurs. Ben non, vous n'en mourrez pas. Pourquoi? Parce que vous avez la force de la jeunesse. Mais de plus en plus, on voit de la contamination chez les jeunes. On n'a pas les moyens de perdre des ressources naturelles comme des gens de votre âge, ni compte se priver de gens qui ont une expérience. Plutôt que d'être antagonisé comme ça, je pense qu'on devrait être plus transgénérationnel. La réalité d'un confinement qui vient frustrer l'ensemble d'une population, c'est vrai pour les gens de tout âge, fait en sorte, à mon sens, que l'on devrait se doubler d'un genre de sens de la solidarité. Parce que ce qui va arriver, on va en payer un prix trop cher. Je pense aux tenanciers de bars et d'établissements licenciés qui étaient sur le point de fermer ou de faire faillite, qui ont peut-être une chance de reprendre des activités en faisant respecter des normes et que là, ils sont envahis par des gens qui ne respectent rien. Et puis, ce n'est pas des policiers, c'est des tenanciers de bars. Ils veulent juste continuer à vivre et de vous rendre la vie agréable en vous accueillant. Et là, vous risquez de revoir un déconfinement et un reconfinement. Et s'il y a un reconfinement, économiquement, ça va être épouvantable. Ça va être épouvantable pour ces tenanciers-là, mais ça va être épouvantable également pour l'ensemble des clients, parce que, et du personnel, et des gens qui y travaillent. Comment on règle ça? Est-ce que c'est l'hésitation du gouvernement de prendre des décisions, de dire « on rend ça obligatoire » Est-ce qu'il y a eu des messages et des contre-messages? Est-ce que la façon de faire de la prévention a été trop gentille parce qu'on est du bon monde, puis on est fin, puis il ne faut pas trop tordre les bras à personne, hein? Bon, alors là, on prend des décisions qui n'en sont pas. Et dans le message, on devrait comprendre que ça devrait aller plus loin que ce qu'ils nous disent. Puis après ça, on ne comprend plus. 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, ça dépend où tu es, où tu restes, dehors, pas dehors, en dedans. Puis... Et ça, ça crée une confusion qui, à mon point de vue, fait lever l'exaspération, les frustrations ou encore même une perception de la réalité qui fait en sorte que ça n'existe pas. On va parler à quelqu'un qui trouve que ça existe pas mal. Il est président de la nouvelle Association des bars du Québec et propriétaire de la taverne Saint-Sacrement. Il s'agit de M. Pierre Thibault. Bonjour, M. Thibault.
Bonjour, M. Mongrain.
Vous êtes tenancier de bar, d'un bar?
Exactement, oui, sur la taverne Saint-Sacrement qui est sur Mont-Royal, Pointe-Saint-Hubert, donc l'avenue du Mont-Royal à Montréal depuis 7 ans.
Comment ça se fait qu'on parle de nouvelle association? Ça a été une création récente?
Exactement. C'est venu quand on a pris la fermeture, donc le 15 mars dernier, des établissements. On s'est pris en main. On voyait qu'il y a eu des trucs qui ne fonctionnaient pas. Là. Ça a commencé vraiment une réaction face aux les mesures économiques d'urgence qui étaient mises en place par le gouvernement fédéral, provincial, ne s'adressait pas aux bars. On était sur des listes d'entreprises non admissibles à ces aides-là. Donc ça a été une réaction. Puis écoutez, il y a deux autres associations qui existent. Nous, de notre côté, on sentait qu'il y avait peut-être une nouvelle génération des bars, buvettes, restos, tavernes qui a pris place dans les 10-15 dernières années au Québec. Donc on voulait venir donner un coup de main à ces associations-là. Puis on a pris la balle au bon, puis on a réussi à faire des grands pas par en avant. Okay. Donc, le financement a été mis. Finalement, on a réussi à sortir une espèce de vision gouvernementale qu'il y avait sur le côté des bars, comme si on était des lieux de perdition et non des PME. Donc, on a créé un bar sur une PME. C'est devenu la nouvelle association des bars du Québec.
Okay.
Aujourd'hui, on est en mode action là, pour essayer de relancer ce secteur de l'économie-là. Puis, comme vous le disiez si bien là, au début de l'entrevue ou du reportage, on est aujourd'hui devant plusieurs questionnements. Est-ce que c'est un trouble de société? Est-ce que c'est un manque de transparence du gouvernement qui ne met pas en place les outils qui devraient être là? Est-ce que c'est des propriétaires de bars qui veulent jouer aux délinquants puis affecter le système? Donc, écoutez, je pense qu'il y a de la place pour une nouvelle association dans ces conditions-là.
Oui, mais quand mon compte de banque est rendu comme peau de chagrin, quand j'ai plus une scène, quand je risque de perdre mon commerce, que je serai pas capable de payer mon loyer, je dis, OK, il y a des règles, mais je refuserai pas 50, 60, 90 ou 100 personnes à la porte. Sinon, je suis tout bien fermé tout de suite. C'est ça qui est un peu, à mon point de vue, à part de l'insouciance, là. C'est ça un peu qui fait en sorte que ils se disent, garde, je suis pas une police, c'est pas moi qui est dans santé publique. Je fais ça, je ramasse à soir 1 500, 2 000 piastres de cash, ça va payer peut-être mon prochain loyer, je viens de sauver un mois.
Oui, c'est exactement ça. Ça peut pas être mieux expliqué. D'un côté, ce qu'on voit, c'est que la réouverture des bars s'est faite progressivement à l'extérieur du Québec le 15 juin, le 22 juin, les bars avec les permis de MAPAC. Il y a eu une gradation. Soudainement, la santé publique débarque le 25 juin, annonce que les bars ouvrent là dans 5 minutes. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas compris. Je veux dire, il n'y a eu aucun préparatif. Donc, dans cette espèce d'énervement-là, soudainement, que la santé publique, au lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, dise « on va ouvrir tous les bars », bien, t'envoies un message aux propriétaires de ces immeubles-là. Donc, souvent, nous, les propriétaires de bars, on n'est pas propriétaires des immeubles. Vous comprenez la séquence. Là. Donc, à partir de là, l'idée, c'est que si le gouvernement dit haut et fort le 25 juin, « OK, on réouvre toutes les bars, on ouvre les nightclubs, les dance clubs, pas le droit de danser, mais vous ouvrez pareil, puis arrangez-vous d'une certaine façon. » Bien, ces gens-là, comme vous le dites, ont des impératifs financiers qui réapparaissent parce que du jour au lendemain, le propriétaire de l'immeuble qui entend ça dans son auto appelle le locataire, puis dit « ton 25 000 de loyer sur Sainte-Catherine au coin de Papineau pour ton nightclub, bien, tu me le dois. » Donc ça a mis une grosse pression à un endroit.
Oui, oui. Dites-moi. Est-ce que ça se peut que ce qu'on vient de décrire là, vous et moi, là, dans le message pas clair, trop vite, précipité, pas le temps de se préparer, fasse en sorte qu'on ne croit même pas qu'un gouvernement puisse nous reconfiner et nous dire « on ferme les bars ». C'est improbable parce qu'économiquement à risque ou s'ils vont le faire, avez-vous peur d'être refermé?
C'est une crainte qu'on a, surtout qu'avec l'épisode qui vient de se passer au 10-30, mais l'idée là-dedans, c'est qu'on est tous conscients qu'après 3 mois, où on a été mis à l'arrêt. L'effondrement d'un pays passe par un effondrement social, c'est clair, mais l'effondrement économique va venir faire en sorte que ça va être l'hécatombe dans plusieurs secteurs. On comprend tout le milieu, chacun à sa place dans le milieu, genre soit commercial, entrepreneurial, quoi que ce soit. L'idée là-dedans, c'est comment ça se fait que le ministère de l'Économie, avec M. Fitzgibbon, n'est pas capable de cibler. Je vous donne un exemple, si vous me permettez.
Allez-y.
100% de l'industrie de la restauration des bars, bon, il y a des chiffres qui ont été véhiculés, 5 000 établissements, 50 000 emplois, des retombées qui dépassent 4 milliards, tout ça. Mais aujourd'hui, on a réussi à déconfiner étape par étape les restos en dehors de Montréal, les restos sur Montréal, les bars. On est arrivé le 25 juin, la bourde qui s'est faite, si on rouvre tout le monde tous du même coup, les discothèques. L'idée là-dedans, pourquoi le ministère de l'Économie n'a pas pris les devants, n'a pas su reconnaître ces entrepreneurs-là qui, eux, voyaient les dettes s'accumuler, disaient « Écoutez, on n'a pas encore le plan à 100% établi, mais demeurez fermés, puis on va avoir des allègements fiscaux qui s'en viennent. On a des programmes, des mesures d'urgence qui s'en viennent pour le 5% de cette industrie-là qui restait. » Le ministère de l'Économie reste toujours dans son mutisme. C'est un peu pour ça, quand vous me disiez pourquoi partir une nouvelle association, on dirait que la représentativité de notre secteur n'est pas un gage de succès pour les gens du gouvernement présentement.
C'est peut-être moins pris au sérieux. C'est peut-être moins pris au sérieux. Ou, je sais pas, peut-être qu'on questionne le milieu.
Exactement. Mais l'idée, on pouvait questionner le milieu il y a 35 ans, avant qu'il y ait des escouades ou des opérations comme Carcajou. On est tous conscients qu'il y a eu une époque moins glorieuse dans le milieu des bars. Par contre, aujourd'hui, si on prend un exemple de la buvette chez Simone, le rouge-gorge, des bars à vin, d'importation, les menus, on fait de la magie avec notre esprit créatif. Il faut sortir de là. Moi, je peux vous donner un exemple rapidement. Ça a été instauré quand le gouvernement fédéral a décidé qu'il n'y aurait plus d'aide financière en provenance de la Banque du Canada pour les bars. C'est une espèce de truc dans le temps de Mulroney en 90 où il y avait financé des bars en Ontario qui s'étaient transformés en bars de danseuses puis financés par des moteurs. OK, en 89.
Oui, mais peut-être que ça n'existe plus. Est-ce que je suis naïf?
Non, mais en fait, si ça existe, c'est comme dans n'importe quelle industrie.
C'est minoritaire.
Exactement, puis il faut trouver les coupables.
Dernière question. Oui. Il n'y a pas de loi. Il y a des suggestions. Il n'y a pas de règlement. Il y a des incitations. Vous n'êtes pas des polices. Êtes-vous capable de mettre, je ne sais pas, une gang de 20 jeunes ou 20 personnes, 20 clients par la porte avec le doorman qui sont en boisson, dit collez-vous pas. Ça se fait
non,
pas.
Non, ça se fait pas. Puis au niveau légal, on s'est informé. C'est très piqué comme question parce que, comme vous le dites, refuser quelqu'un. Donc, présentement, c'est arrivé trop vite. Par contre, pour finir, ce que je peux dire, il y a des moyens de faire pour enlever la pression. Au lieu de fermer à 3 heures du matin, fermons à minuit. Les 250 places et plus, peut-être qu'on devrait les considérer comme des établissements qu'on pourrait attendre avant de les ouvrir. Mais comme vous le dites, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de loi. Donc, on improvise. En improvisant, il y a des erreurs qui se font comme on
parce a dit. Parce qu'entre vous et moi, vous pouvez accueillir 200 personnes dans un bar, peut-être, ou 150 personnes dans un bar. Puis pour aller au vu, il ne faut pas être plus que 50 et distancé. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis chez nous, dans le cours, on est 10 à 3 adresses. Et 2 mètres de distance, il y a des incohérences dans le propos.
Oui, exactement. Mais en même temps, on sent que le gouvernement a envie de relancer l'économie, donc il y a de l'improvisation. Par contre, des erreurs, comme on a vu en fin de semaine, je termine avec ça, il y avait de la négligence des deux côtés. On doit sensibiliser les gens, on est en phase 2, donc il faut tous se mettre au travail, sensibilisation, c'est le mot d'ordre, puis travailler ensemble.
Merci, bonne chance.
Merci, M. Morgan.
Pierre Thibault, qui est le président de la nouvelle Association des bars du Québec et propriétaire de la taverne Saint-Sacrement. On retrouve notre consoeur Valérie Leboeuf, qui est journaliste à Cause Éco Nouvelles, parce que vous avez fait un petit tour d'horizon, Valérie, de ces situations de bars en fin de semaine et de plages et de concentration de population.
Oui, parce que c'est vraiment le problème de distanciation sociale qui a été vu en fin de semaine. Et notamment, je vous raconte l'expérience de cette auditrice qui, elle, s'est rendue dans un bar de son quartier de Montréal jeudi. Ça a bien été. Il y avait de la distanciation au niveau des tables, plexiglas, désinfectant. Les gens étaient assis. Par contre, samedi, elle s'en va dans un bar du sud-ouest de Montréal. Et là, toute autre expérience, tellement qu'elle a décidé de quitter les lieux pour sa sécurité. Je vous laisse entendre.
J'étais au restaurant dans le sud-ouest de Montréal, puis il y a un bar qui est annexé au restaurant. Donc, quand le restaurant a fermé, on est descendu. Puis le bar était bondé. Il y avait aucune distanciation sociale. Tout le monde était agglutiné autour du barman. Les gens dansaient collés. Donc, j'ai décidé de quitter. Il y avait personne d'assis, c'était vraiment comme si j'étais dans un bar en février avant la pandémie. C'était exactement la même chose.
Comme si c'est rien passé. Exactement. Donc un genre de vision un peu en bulle et artificielle d'une réalité par ailleurs.
Et on parle de gens, dans ce cas-ci, d'une clientèle âgée entre 25 et 40 ans. Et les seules mesures de sécurité, en fait, qui étaient mises en place dans cet endroit-là, ce sont les serveurs qui portaient la visière.
Qu'est-ce qui arrive dans d'autres endroits comme je regardais les plages, je sais pas si vous êtes penché là-dessus, mais il y a les bars, il y a les plages, il y a les endroits publics, les parcs, c'est assez incroyable. Là. Évidemment, s'ajoute à ça, on peut tout trouver les excuses. Là. Il fait chaud, j'ai pas d'air climatisé, j'ai pas de balcon, je suis confiné, c'est le temps que je sorte. Je comprends tout ça, mais le virus est là.
Le virus est là. Et à la plage d'Oka, par exemple, on a dit qu'il y avait seulement 50 % de la capacité habituelle de la plage d'Oka qui était remplie ce week-end. Mais on a vu des images sur les réseaux sociaux et on a dû fermer samedi pendant 2 heures l'accès à la plage tellement il y avait de gens. On attendait qu'une voiture sorte pour laisser entrer une autre voiture. Ça, c'était du côté d'Oka. Mais j'ai une auditrice à qui j'ai parlé, Amélie, qui, elle, m'a raconté ce qui s'est passé du côté de Gatineau au parc de la CEPAC.
un rassemblement de plusieurs terrains, puis il était très bruyant aussi, là. Généralement, dans les CEPAC, c'est très, très silencieux sur le camping, puis moi puis mon conjoint, on adore ça justement parce que c'est très tranquille pour faire le feu le soir, tout ça. C'est pas comme dans les campings commerciaux, mais là, c'était pas comme ça vendredi soir. Puis samedi, le terrain voisin de nous, ils ont décidé qu'ils fêtaient une grand-maman, puis il était au moins quasiment une trentaine de personnes là, sur un petit terrain de camping, là.
Et j'ai parlé à une autre auditrice, oui. Jean-Luc, qui, elle, était du côté de Tremblant. C'est une habituée des parcs de la CEPAC. Elle y va à chaque année et elle trouve que l'expérience cette année est complètement différente. Ça ne lui plaît pas vraiment non plus.
Puis, il y avait énormément de monde. Je pense qu'il y avait un surplus de monde parce que, justement, l'écart était à 50 %. Donc, beaucoup de visiteurs d'un jour. Manque d'espace. Les stationnements étaient complets. Les gens qui étaient en camping ne pouvaient pas nécessairement aller à la plage parce que c'était complet. Beaucoup plus de personnes qu'en temps normal. On a beaucoup de difficultés à réserver dans les CEPAC cet été. Même si on a nos passes pour l'année là, pour aller camper, on n'a pas de place. Quand on essaye de réserver, on fait la ligne sur Internet puis on n'a pas de place pour aller dans les campings qu'on désire aller.
Il y a de la pression sur les lieux de loisirs, puis il y a de la pression dans la tête des gens parce qu'ils sont allés d'être confinés.
Ben,
en fait,
c'est
un autocuiseur. Là. La pression est forte sur le chaudron un peu. Merci.
Merci
beaucoup Valérie. Merci bien. Au retour de la pause, on va parler d'une autre affaire qui l'on traîne depuis des décennies, la qualité de nos routes. Écoute, là, l'autre jour, je m'en vais en voiture, mon épouse est à côté de moi, puis elle veut envoyer un message à notre fille, fait qu'elle prend son téléphone, puis elle essaye de faire un texto. Oubliez ça, là, ça a été écrit, je sais pas, c'est en turc, je sais pas en quelle langue c'était écrit. C'était impossible. Il n'y a pas de route au Québec où on peut rouler sans éviter aux 15 secondes d'avoir un trou, un bump, n'importe quoi, c'est hallucinant. Il y a une enquête importante qui a été menée justement par le Journal de Montréal sur quelles sont les conditions préalables à avoir des bonnes routes et comment ça marche. L'étude est intéressante. On va en parler avec des gens de l'ETS tout de suite au retour de la pause.